distribution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste. Nous allons repeindre la vie et lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde. Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Vous trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir, bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, fréquence 102.2. Je me présente, je m'appelle Pierre, donc je vais maintenant présenter le Canu Info tous les vendredis, une semaine sur deux. Donc voilà. Donc ce soir, on va pas refaire une édition spéciale Charlie Hebdo. C'est un événement très important, c'est vrai, très grave, c'est un coup dur pour la liberté d'expression. C'est aussi la mort de dessinateur qui me faisait très rire. Mais il ne faut pas que ce drame camoufle derrière lui toutes les autres informations importantes à traiter. Et je pense d'ailleurs que les journalistes de Charlie n'auraient pas voulu que l'on fasse un deuil national trop long, mais au contraire que l'on se remette vite à parler, à dénoncer ou à rire des problèmes qui sévissent dans le monde. Car malheureusement, on le sait, des meurtres de sang-froid comme celui-ci, il y en a tous les jours, partout. Et il en est de même pour les atteintes à la liberté d'expression. Je vais donc me servir de cet attentat contre le journal satirique comme une ouverture pour parler d'autre chose en fait. Et ça, ce sera la première partie de Scanu Info. Et ensuite, en deuxième partie du journal, il y aura un dossier, on peut dire, avec des reportages concernant les personnes sans logement. Donc on va commencer par parler un peu, mais quand même pas trop, des retombées politiques de l'attentat à Charlie. On s'en doutait, puisque les auteurs de la tuerie se revendiquent comme des vengeurs de l'islam, le Front National peut se servir aisément de l'événement, surfer dessus, et redorer sa politique anti-immigration. La stratégie adoptée est alors très fine. Marine Le Pen ne veut pas être accusée de récupération politique après un événement aussi tragique. Elle a donc refusé dans ses déclarations de faire l'amalgame entre les terroristes dits islamistes et les musulmans. Elle doit aussi conserver auprès des nouveaux électeurs plus modérés du FN l'image du parti fréquentable qu'elle a bâti. En revanche, le numéro 2 du parti, qui est Florian Philippot, est lui moins visible, et il peut donc se permettre de récupérer l'événement et donc par ce biais de conforter les électeurs un peu plus virulents du FN dans leur choix partisan. Dans ses déclarations, il a d'ailleurs implicitement dit que la solution la plus simple pour se débarrasser du terrorisme en France, ce serait de réduire, voire de stopper l'immigration. Donc pas de doute à avoir hein, là-dessus. Le FN fait bel et bien l'amalgame et incite à l'amalgame entre musulmans et terroristes se revendiquant islamistes. Et bon, on peut aussi parler des autres groupes d'extrême droite tels que le Bloc Identitaire ou encore Riposte Laïque, qui ont eux aussi bien évidemment fait directement la liaison entre cette tuerie et la politique d'immigration. Il parle d'une islamisation de la société, d'une complaisance du PS avec les soldats d'Allah, enfin la totale quoi. Et enfin, pour les éditorialistes du Figaro, la France est en guerre civile. Un attentat, et ça y est, pour eux, c'est la guerre. Je pense que ces journalistes devraient peut-être faire quelques reportages en Libye pour voir ce qu'est vraiment une guerre. Voilà, voilà ce qu'on peut dire. On peut aussi rappeler que les tueurs des journalistes de Charlie Hebdo ont été arrêtés cet après-midi. Ont été pas seulement arrêtés, ont été tués par le GIGN. Voilà. Peut-être qu'on aurait préféré que justice soit faite, qu'ils soient arrêtés, mais apparemment ce n'était pas possible. Voilà, je voulais pas en parler trop longtemps, mais ça me semble tout de même important de lutter contre cet amalgame entre musulmans et islamistes qui a la voie libre finalement avec cet attentat. D'ailleurs, en guise de premier reportage, on va écouter Fatia qui est musulmane et qui était hier.
Je suis là pour en soutien déjà aux familles des victimes, parce que avant le côté symbolique, il y a déjà le côté humain. Des personnes qui sont décédées, qui sont blessées, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a qui sont encore dans des états graves, donc des familles inquiètes aussi. Et puis, comme j'ai la double culture et que je suis musulmane et née en France, donc j'ai grandi dans les convictions de la démocratie, de la liberté de parole, de la liberté de presse. Même si le Charlie Hebdo était un journal aimé ou détesté, pour la liberté de la presse, c'est ces valeurs-là qu'on soutient.
Et justement, bien que je suis allé vers vous, c'est parce que justement, on peut souhaiter que vous êtes musulman.
Oui.
Est-ce que vous n'avez pas peur avec des événements de ce genre que justement on généralise, qu'on stigmatise?
Ma première réaction, ça a été, c'est un deuxième 11 septembre, on va encore nous regarder de travers. Mais très vite, ce qui a pris le dessus, c'est que je suis fière d'être musulmane, je revendique ma religion, parce que ces personnes-là ne nous représentent vraiment pas. C'est qu'un petit groupuscule, mais infime, qui est très loin de représenter les millions de musulmans que nous sommes sur cette planète, et les millions que nous sommes en France déjà. Donc j'ai la tête haute d'être musulmane, parce que ça n'a rien à voir.
Est-ce que vous n'avez pas peur que les gens deviennent un petit peu parano avec ça, ils aient peur de sortir, même vous?
C'est clair que...
Peur de voir des choses comme ça ou...
C'est sûr qu'on est tous un peu, je pense, un peu apeurés, mais en même temps, on ne veut pas se laisser gagner par cette crainte et cette paranoïa, parce que sinon, ils auront gagné. Si à cause de deux ou trois fous, on est obligé de se terrer chez nous, là, c'est eux qui ont gagné, et pas du tout. Donc, tant pis, ce qui doit venir arrivera. Et je crois fort que, malgré tout, on prendra le dessus là-dessus, surtout ces groupes extrémistes, que ce soit musulmans ou dans la religion chrétienne ou chez les juifs ou autres religions qui existent. Donc non, pour moi on prendra le dessus et il ne faut surtout pas justement se terrer.
Pour vous c'est important que Bron fasse une minute de silence
Tout le monde, moi je pense, que ce soit la ville, que ce soit la fonction publique ou privée, j'espère que tout le monde respectera cette minute de silence, parce que ça fait très longtemps que la France n'a pas vécu un moment aussi terrible. Et voilà, pour montrer notre soutien, c'est le minimum de choses qu'on puisse faire.
Et dans tous les cas, il ne faut surtout pas parler d'une islamisation de la société, c'est absolument...
Pas du tout, non. Il ne faut pas justement mélanger les choses. Et je pense que même le mot islam, il faudrait carrément l'enlever de toute cette formulation et de cet attentat, parce que ce n'est pas la religion qui prône ces valeurs-là. Et à chaque fois, associer l'islam à ces actions, c'est ce qui va entraîner de l'islamophobie, des craintes, alors que c'est pas du tout ça.
D'ailleurs, la représentation de l'islam en France a bien précisé cela.
Oui, de toute façon, tous les grands chefs et imams des mosquées ont fait un communiqué pour condamner tout ça. Donc après, on n'a rien de plus à ajouter. C'est condamnable et ça n'a rien à voir avec notre religion.
Et voilà, c'était le témoignage de Fatia. Pardon, je ne vais pas terminer ma phrase. Fatia, que j'ai rencontrée devant la mairie de Bron hier à midi pour la minute de silence, donc en réaction à l'attentat au journal Charlie Hebdo. Alors on va continuer un peu sur ce sujet des atteintes à la liberté d'expression. Notamment on va parler des meurtres et des emprisonnements de journalistes dans le monde. Hier, deux journalistes tunisiens portés disparus depuis septembre ont été tués en Libye. Le double meurtre a été commis par des membres de l'État islamique qui se revendiquent eux aussi comme avoir agi au nom de l'islam et de Dieu. Le groupe accuse notamment les deux journalistes de travailler pour une chaîne combattant la religion. Et en Égypte, c'est le contraire qui s'est déroulé. Trois journalistes de la chaîne Al Jazeera sont emprisonnés depuis un an, simplement pour avoir exprimé des opinions considérées comme en faveur des frères musulmans. Les frères musulmans, c'est une formation politique et religieuse qui est considérée comme un groupe terroriste par le gouvernement égyptien, et ce depuis décembre 2013, pardon. C'est-à-dire en fait depuis que le président Mohamed Morsi, issu lui-même des frères musulmans, a été viré du pouvoir. Et les journalistes, eux, ils ont tout simplement dénoncé la répression sanglante du gouvernement contre les manifestants pro-Morsi. Ils sont à présent condamnés à des peines allant de 7 à 10 ans de prison. Ce sont donc des prisonniers politiques, puisque leur seul méfait est d'avoir exprimé des propos défavorables au gouvernement égyptien. Un nouveau procès s'est ouvert le 1er janvier 2015, car la Cour de cassation égyptienne a estimé que des irrégularités de procédure avaient eu lieu lors du jugement. Mais ce nouveau procès, ce n'est évidemment que la continuation d'une injustice, puisque les journalistes, ils n'ont fait qu'exercer leur métier. Et donc, en tout cas pour moi, ils devraient être libérés immédiatement et sans condition. Et ce procès des trois journalistes n'est qu'une des facettes, finalement, de la répression présente en Égypte depuis la destitution de Mohamed Morsi en 2013. Selon Amnesty International, c'est 16 000 personnes qui ont été arrêtées simplement parce qu'elles sont considérées comme des détracteurs ou des opposants au gouvernement actuel et au président actuel Al-Sisi. On se rend à présent en Palestine, un pays dont les habitants subissent des atteintes à leur liberté fondamentale et même à leur vie, tous les jours. La dernière actu, la Palestine devrait enfin devenir membre officiel de la Cour pénale internationale, la CPI, à partir du 1er avril prochain. Je le rappelle, ce pays n'est toujours pas reconnu unanimement sur le plan international comme un État en tant que tel. Cette reconnaissance de l'État palestinien fait tout de même son chemin, et ce malgré le lobbying très important de son ennemi Israël, soutenu par les États-Unis. La Palestine n'est par exemple pas membre de l'ONU, même si elle a accédé en 2011 à l'UNESCO, ce qui lui permet d'être un État observateur de l'ONU. Cela signifie globalement que les représentants palestiniens peuvent assister et éventuellement s'exprimer lors des réunions de l'ONU, notamment au sein du Conseil de sécurité. Mais par contre, ils ne peuvent pas voter de résolution ni poser de droit de veto comme les membres à part entière de l'ONU. Aujourd'hui, l'adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale est très importante, puisque cela signifie que des responsables israéliens pourront être jugés pour crimes de guerre, alors que pour l'instant, les atrocités commises par l'État d'Israël, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, ils demeurent impunis. Je rappelle que l'été dernier, des milliers de Palestiniens sont morts à Gaza suite aux frappes aériennes d'Israël. Et aujourd'hui, c'est des dizaines de milliers de familles qui sont sans abri, alors qu'il fait en ce moment un froid de Sibérie dans cette région. Je rappelle également que cela fait 60 ans que les territoires palestiniens en Cisjordanie sont occupés par Israël. Et chaque jour, l'État hébreu colonise un peu plus. Les négociations de décembre au Conseil de sécurité qui devaient aboutir à la fin de l'occupation israélienne d'ici 2017 ont échoué. Et c'est donc pour cela que la Palestine s'est tournée vers l'option de la Cour pénale internationale. Alors évidemment, Israël n'a pas apprécié la demande de la Palestine d'adhérer à cette instance. L'État hébreu a directement appliqué des sanctions. Il ne reverse plus à la Palestine les taxes sur les produits palestiniens qui transitent par les ports et aéroports israéliens. Or, cet argent, c'est quand même 130 millions de dollars, donc un sacré paquet, qui permet à l'État palestinien de payer ses fonctionnaires. Conséquence, plus de 150 000 Palestiniens n'ont toujours pas reçu leur salaire du mois de décembre 2014. Voilà, c'est ce qu'on peut dire sur la situation de la Palestine en ce moment, la Palestine qui continue à se tenir debout. On continue sur l'actualité internationale avec une bonne nouvelle, cette fois-ci une meilleure nouvelle. Il va enfin y avoir un salaire minimum en Allemagne. Non, il y a déjà un salaire minimum. Il y a enfin un salaire minimum en Allemagne, pardon. Et oui, car jusqu'à maintenant, cela n'existait pas. Le Bundestag, donc l'équivalent du Parlement en France, l'a voté jeudi dernier. Et donc depuis le 1er janvier 2015, le SMIC allemand est de 8,50 euros de l'heure, soit 1400 euros bruts par mois. C'est donc un tout petit peu moins qu'en France. Cela fait une dizaine d'années que les syndicats s'affrontent sur la question du salaire minimum, qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et pendant ce temps-là, ils laissent les salariés victimes de dumping salarial, les salariés allemands, en plan. Alors, dumping salarial, ça veut dire quoi ? Eh ben, s'il n'y a pas de salaire minimum, les employeurs ont donc la totale liberté de choisir le montant des salaires, et donc ils peuvent payer les salariés une misère. En Allemagne, ils sont quand même 4 millions à être payés entre 5 et 8,50 euros de l'heure, notamment dans la gastronomie, la restauration et les services d'entretien. Pas de salaire minimum, c'est donc la porte ouverte à un capitalisme des plus féroces. Alors heureusement, il y a des conventions collectives dans quelques secteurs en Allemagne qui avaient déjà mis en place le salaire minimum, et ce, même avant qu'il ne soit voté et généralisé. Et histoire de déplaire, de casser les idées des fanatiques de Adam Smith, de libéralisme, de la main invisible, tout ça, eh bien le chômage n'a pas augmenté dans ces secteurs où les conventions collectives ont été signées, comme dans les métiers de la coiffure par exemple, où le chômage est même en baisse. On va à présent parler d'actualité nationale avec une information très triste. Samedi dernier, un maire a refusé d'inhumer un bébé rom dans sa commune. On voit jusqu'où le racisme peut aller en France. Cela s'est déroulé dans la commune de Champlan, dans l'Essonne. Et le maire a bien sûr justifié sa décision. Il met en avant le fait que le cimetière de la commune ne comporte pas beaucoup de place et que l'enfant rom est mort dans la commune voisine. Et surtout qu'il faut gérer les places restantes au cas par cas. Mais alors, que veut dire le cas par cas pour ce maire de divers droites ? Eh bien, c'est ce qu'il a dit, attention, priorité de donner à ceux qui payent des impôts locaux, car l'entretien et l'agrandissement du cimetière coûtent très cher. Alors, ces déclarations ont évidemment déclenché un tollé dans les médias et les réseaux sociaux, et heureusement, pour faire redescendre l'indignation, le maire a évidemment essayé de se justifier, voire de revenir sur ses propos. Il a parlé de dysfonctionnement, d'instrumentalisation politique. Et il a finalement rédigé un communiqué de presse dans lequel il s'excuse d'un malentendu et il accepte finalement que l'enfant soit inhumé à Champlan. Mais nous ne pouvons évidemment pas parler d'un malentendu, c'est impossible. Le maire a bien tenu les propos qu'il a tenus aux Parisiens. Le refus prononcé au départ était donc bien complètement ou en partie de l'initiative de ce monsieur. Et ce n'est pas étonnant de sa part, parce qu'en novembre dernier, ce même maire a publié un communiqué dans lequel il prévenait les habitants de sa commune qu'un enfant rom était porteur de la tuberculose, alors que cet enfant n'était même pas contagieux, selon des associations. Donc d'où était l'intérêt de faire une telle prévention, on ne sait pas. C'est peut-être tout simplement du pur racisme. Et dans ce même communiqué, le maire a écrit qu'il regrettait que l'expulsion du camp de Rome sur sa commune prennent autant de temps. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait dire un petit peu par rapport à l'actualité nationale. Maintenant, on va faire une petite pause musicale. On va écouter la musique Catch Your Can de Thierry Robin. Et voilà, la musique, c'était Catcher Can de Thierry Robin. On va à présent parler des fêtes. J'espère en passant que vous avez tous passé un bon Noël et un beau réveillon pour cette nouvelle année 2015. Moi, durant les fêtes, je me suis demandé comment elles se passaient pour les gens qui n'ont pas de chez eux, pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de manger du foie gras et des fruits de mer à Noël. Concrètement, comment se déroule la période des fêtes pour les SDF ou encore pour les demandeurs d'asile ? Est-ce que eux aussi ils ont l'opportunité de bien manger et de passer une soirée conviviale ? Je pense que malheureusement pas tous. Mais tout de même, certaines associations organisent des soirées pour Noël et le premier de l'an. Des soirées conviviales, gratuites et surtout ouvertes à tous. Et ceux qui s'y rendent peuvent manger eux aussi comme des rois et faire la teuf. Il y a eu en France 150 réveillons de la solidarité cette année qui se sont déroulés surtout dans les grandes villes. Cela a permis à 17 000 personnes de partager un moment chaleureux. Ces événements sont organisés par des associations telles que la Croix-Rouge, le Secours catholique ou encore le Secours populaire. Cela s'est bien sûr déroulé à Lyon, mais moi je n'étais pas à Lyon pendant les fêtes. J'ai donc réalisé un reportage sur ces réveillons solidaires, mais à Tours, en Indre-et-Loire, dans le centre de la France, où j'habite. Et on commence donc ce reportage avec l'interview de Lulu, qui est un SDF de Tours, justement.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Lulu de Tours. Franchement, je suis SDF depuis une bonne dizaine d'années et franchement, je vais vous dire quelque chose, j'ai passé un Noël exceptionnel.
Ah ouais, pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai fait bénévole au niveau de la Croix-Rouge, au niveau de Tours, parce qu'ils organisaient des repas au niveau des églises pour les gens qui pouvaient pas se payer de Noël, on va dire, et ou qui étaient seuls. Et en fait, j'ai aidé les personnes âgées à descendre les escaliers pour eux, on va dire. Donc voilà, j'ai passé un Noël excellent. À refaire et sans...
C'était quoi leur idée ? Ça s'est passé comment en fait ?
En fait, ce Noël est passé exactement que les gens, ils venaient directement à l'église Saint-Junien à Tours. Pour passer un Noël tous ensemble en fait. Ils ont fait un repas, ils ont fait une messe, ils ont fait plein de choses, mais vraiment vraiment très 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 bien monsieur. Et franchement c'était génial. Et là ils refont quelque chose le 31 décembre, ils font quelque chose pour le jour de l'an en fait. Ils font pareil à côté d'une église à Tours aussi. On va savoir ça d'ici un ou deux jours. Et pareil, un repas offert avec un DJ qui va venir mettre de la musique, voilà, et puis tout le monde va être content.
C'est comment les fêtes sans ça ? Enfin, du coup, pour vous
Dehors. Sans ça, dehors, on serait dehors. On serait dehors. Ouais, on serait à la rue, on serait en train de faire la manche. Ce sera un jour comme un autre, comme vous dites. On sera là, dehors, en train de demander aux gens des sous, et franchement, moi, ça me... Mais je vous assure, j'ai passé un très, très, très bon Noël. Ouais, et franchement, je me suis bien amusé.
Il y avait beaucoup de monde
Ouais, il y avait du monde. On va dire entre 300 et 500 personnes, on va dire.
Ah ouais, c'est pas mal. Hein.
C'est déjà un beau petit chiffre quand même pour un Noël, pour des gens qui peuvent pas se déplacer, qui peuvent pas, voilà, qui sont handicapés ou des trucs comme ça. Voilà, quoi, c'est bien. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on peut recroiser du monde qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de voir des amis de Tours revenir ici pour, voilà quoi. Ou alors même juste pour Noël, des gens qui viennent des villages, ça, voilà, des petits villages d'à côté, tout ça. Ils fêtent rien, ou alors ils sont chez eux. Et puis à 8h, ils sont couchés. Hein. Alors, vous savez, hein, des fois, voilà quoi, il y en a...
Pardon, excusez-moi. Voilà, c'était Lulu de Tours. Et on continue le reportage. Le soir du 31 janvier, je me suis rendu dans une salle des fêtes où c'était le Secours Populaire, cette fois-ci, qui organisait lui aussi un réveillon que l'association appelle Réveillon Partagé. Et tout de suite, Nadège va nous expliquer l'objectif de cet événement.
c'est de se retrouver tous ensemble et de partager ce moment-là. D'autres vont faire Noël, nous on fait le premier de l'an. Premier de l'an, le nouvel, la nouvelle année sur le réveillon partagé, ça fait déjà presque 15 ans que cela existe. Hein. Donc oui. Donc tout le monde apprécie, on est toujours plus ou moins, mais on arrive toujours à se retrouver. Et on a des personnes ici que ça fait déjà quelques années qu'on se retrouve pour la nouvelle année.
D'accord. Et comment ça se passe du coup, vous partagez, ça veut dire que...
Ah ben chacun même, tout le monde. Tout le monde, on envoie une invitation.
Je peux venir, arriver, dire bonjour.
Voilà. Et la seule participation, c'est chacun amène quelque chose. Sinon, c'est une petite participation financière. Mais autrement, on vient tous avec un plat, avec une bouteille, avec sa bonne humeur. Et puis, on partage des moments de... Bah, on fait connaissance. Et puis, on partage ces bons moments-là. Et on souhaite la bonne année. On casse tout.
Dès que c'est minuit. Est-ce qu'on peut dire que ce genre d'initiative... Oh, des petits toasts. Moi, je sais pas si j'ai osé.
Par contre, hein, ouais. C'est un peu sec. Hein.
Ah bah ouais, mais ça, moi, je peux pas être derrière le bar et devant.
Voilà. Oui, donc, non, c'est vrai que au Secours Populaire, c'est une génération, c'est une généralité, tout du moins. Et dans d'autres départements, ça se fait aussi.
D'accord. Est-ce que ça permet à des gens de... Par exemple, dedans, ou des gens qui vivent dans la rue,
la porte est ouverte à tout le monde, je dis bien tout le monde. Ça peut être un SDF, ça nous est arrivé d'en avoir, ça peut être des gens du voyage, ça peut être tout le monde, je dis bien tout le monde.
D'accord.
La porte est ouverte à tout le monde.
C'est donc ça votre but ?
Ah, tout à fait. De se faire rencontrer des gens qui n'auraient pas forcément l'occasion de se rencontrer. On va se mettre à table gentiment, la musique, on va danser un petit peu, et puis au moment des 12 coups de minuit, eh bien là on va faire péter les bouteilles. Là. Et puis là on est parti pour une bonne quarantaine.
D'accord.
Une bonne quarantaine de personnes et c'est tout le monde n'est pas encore arrivé, mais on attend encore d'autres personnes.
Généralement, ce type d'événement, il y a aussi Noël pour tous. Ce type d'événement, ça permet aux gens de forcément l'occasion, l'opportunité de connaître l'ambiance de fête.
Voilà, tout à fait. Et puis, on n'oublie pas les gens qui sont tout seuls. Hein. Et ça, c'est des gens qui repartent, mais avec d'autres connaissances, avec la rencontre de personnes qu'ils n'auraient jamais eu l'idée de rencontrer. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Et puis de se retrouver, de faire des échanges. Ça, c'est important. On discute tous les uns avec les autres, on partage. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? C'est communiquer.
Parce que vous trouvez qu'à Tours, il existe une réelle solidarité, que ce soit dans les associations, mais aussi les gens en général.
Je pense que oui. Je pense que oui. Nous, on la voit au niveau de la fédération, au niveau des boutiques de solidarité. Les gens donnent. Et ils peuvent donner matériellement comme ils peuvent donner financièrement. Et c'est vrai que c'est là que l'on se rend compte que, en fin de compte, si les gens n'ont pas les moyens de donner financièrement, ils auront toujours quelque chose à vous donner, soit des vêtements, soit de la vaisselle, soit des différentes choses. Et puis, de venir partager au niveau des boutiques aussi, au niveau de la boutique de la solidarité, permet de se rencontrer aussi.
Justement, pour finir, est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est le Secours Populaire quand même ?
Alors, le secours.
Qu'est-ce que c'est exactement ? Voilà,
ouais. Alors, le Secours Populaire, c'est une association qui est sur la loi 1901. Nous allons fêter nos 70 ans sur 2015. Et ça va être un événement important. Là, ça va être la fête toute l'année, parce que aussi bien pour les enfants, parce que le Secours Populaire, on fait aussi bien comme vous voyez, Père Noël vert, c'est la campagne de Noël. On a la campagne précarité. Là, on va rentrer dans la campagne Don Action. Don Action qui nous permet, nous, de pouvoir fonctionner. C'est-à-dire, on vend des billets de tombola. Il y a une tombola au bout. Et l'argent qui est récolté nous permet, nous, de fonctionner et faire encore davantage. Et puis, ben, on a les vacances où on permet à des personnes de pouvoir partir, à des enfants de pouvoir partir. Et tous les ans, sur une journée, on réunit la France, ce qui va être l'année prochaine. On va se retrouver toute la France sur Paris, parce que tous les 5 ans, autrement, on s'en va, on emmène les enfants ou en bord de mer ou dans un château, mais on emmène une journée, ce qu'on appelle la journée des oubliés des vacances. Les vacances, et puis là, différentes actions durant l'année. Cette année, là, sur 2015, ça va être vraiment important parce que je vous dis, c'est les 70 ans, et là, on va vraiment marquer l'événement. Aussi, au niveau du Secours Populaire, on a un mouvement Enfants Copains du Monde. Et ce sont des enfants qui sont acteurs, auteurs et acteurs de solidarité aussi. Donc, ils commencent à l'école primaire. Et ils sont très, très motivés. Très motivés. Ils ont des idées qu'on n'a pas forcément, nous, adultes. Et ça nous booste. Ça nous permet d'aller plus loin encore. Sur Tours, on est entre 500 et 600 sur le département. Sur le département, qui se constitue entre plusieurs comités antennes. On fait tous la même chose. L'aide, que ce soit l'aide aux devoirs, que ce soit l'aide financière, rechercher pour certains, rechercher, aider à retrouver des emplois, l'illettrisme, c'est-à-dire aider les enfants, les étrangers à apprendre le français.
Et oui, heureusement qu'il existe des associations avec des centaines de bénévoles pour aider les personnes en difficulté, que ce soit pour se loger, se nourrir, partir en vacances ou encore faire des démarches administratives. Et puisque nous venons de parler des réveillons solidaires, parlons à présent des bénéficiaires de ces événements, qui sont notamment les SDF. Je vais passer la deuxième partie de l'interview de Lulu. Donc Lulu de Tours, il va nous dire un peu comment lui vit au quotidien et ressent les choses en tant que sans domicile fixe.
Je suis pas très pour ça, on va dire, à demander aux gens, parce que franchement ça me fait mal au cœur de demander quand même des sous pour manger, vous savez. C'est pas non plus la joie, hein, vous savez.
Faut pas croire que c'est.
Qu'on est des riches, hein. Ouais, que faut pas croire que ceux qui sont dans la rue, qui font la manche, qui sont riches juste au bout de la journée, à la fin de la journée, parce que c'est pas vrai, hein, je vous assure. Hein.
Mais bah t'en sentir quand même.
Ah, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi répondre sur cette question, parce qu'il y a des jours on peut s'en sortir et des jours moins bien. Quand il pleut, vous savez, c'est pas évident. Hein,
voilà. C'est plus dur l'hiver aussi dans la rue, du coup.
C'est autre chose. Okay. C'est pas pareil. Quand t'as l'habitude des saisons ou du froid, c'est sûr qu'après, voilà, quoi, t'es tranquille. Tu crains plus rien. Tu crains plus rien. Mais heureusement qu'on a des bons duvets quand même.
Ouais.
Ouais, je vous le dis personnellement, heureusement qu'on a des bons duvets militaires.
Ça va, la ville, c'est comment Tours par rapport au SDF? Enfin, elle est plutôt répressive à vouloir virer et tout ou pas?
Bah, ils veulent qu'on parte, hein. Ça c'est sûr, hein. Il pose l'été des interdictions de faire la manche. Ah ouais, carrément, hein, je vous assure, hein, il pose plein de choses. Hein. Ça, faut voir à la mairie. Normalement, il y a des jours on devrait même pas être là, hein, on vous assure. Hein. C'est une ville touristique et voilà quoi, il y a du monde. Il y a du monde tous les jours et bonjour. Et franchement, voilà quoi, c'est pas non plus la joie du. Vous voyez, hein, vous avez vu comment les gens ils regardent, hein, on croirait qu'on est des bêtes, on va dire, des fois, je vous assure, c'est horrible, hein, je vous assure que franchement, des fois.
Et oui, comme le dit Lulu, les municipalités et les gens, en général, ne sont pas toujours des plus courtois avec les SDF. Ce phénomène de société a d'ailleurs inspiré des artistes lyonnais. Des étudiants en art du spectacle de Lyon 2 ont créé une pièce et donné une représentation à la fac au campus de Bron au début du mois dernier. La pièce s'intitule « Un steak trop cuit » et se veut être un miroir de la société actuelle. Et dans l'extrait que je vous passe tout de suite, le thème abordé est justement celui de la pauvreté que l'on ignore souvent, voire que l'on rejette.
Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Parole Libérée, l'émission qui redonne la parole à ceux qui n'ont plus assez. Ce soir, nous allons parler d'un sujet difficile, un sujet compliqué, celui de la pauvreté dans la société française. Pour cela, je reçois deux invités, Bertrand Jacques, bonsoir Bertrand. Et Christine Marie, bonsoir Christine. Alors vous êtes tous deux co-auteurs d'un livre qui est sorti la semaine dernière, Marre des pauvres, qui a fait l'effet d'une bombe au sein de la communauté riche, ça on peut le dire, je pense. Alors, avant d'entrer plus à même dans votre ouvrage, j'aimerais commencer par une citation que j'ai tirée de votre livre. La pauvreté dans la société française se concentre exclusivement sur les populations miséreuses. Cela ne peut être considéré comme une coïncidence. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu ?
Oui, alors bien sûr, je trouve ça très intéressant que vous ayez choisi cette citation, puisque justement, elle illustre le but qu'on s'est fixé en écrivant ce livre, qui est de remettre en avant un fait qu'on oublie trop souvent aujourd'hui, qui est que s'il y a de la pauvreté en France, c'est à cause des pauvres. Et oui, ce sont eux qui sont pauvres, ce n'est pas nous. Il faut donc arrêter, je pense, de stigmatiser la population riche et arrêter de stigmatiser la population riche parce que tout le monde a des problèmes. J'ai des problèmes, vous avez des problèmes. Simplement, on ne va pas demander aux pauvres d'aller nous donner de l'argent, par exemple.
Et d'autre part, hein, toujours dans le constat, les pauvres, à force de les aider, deviennent une population privilégiée. Et il me semble, hein, corrigez-moi si je me trompe, qu'on avait aboli les privilèges, hein, dans la Constitution. Donc quelque part, la pauvreté serait la nouvelle noblesse d'aujourd'hui.
Ce constat que vous pointez me paraît paradoxal, et c'est peut-être le cas de nos téléspectateurs. Dans l'imaginaire collectif, les pauvres sont plutôt ceux qui souffrent, ceux qui sont à plaindre. Alors, pour cause en plus, ils se plaignent beaucoup. Alors, comment expliquez-vous cet écart entre la réalité des faits d'un côté et ce que croient les gens de l'autre ?
Alors, premièrement, c'est important de le rappeler, hein, tout le monde sait que les pauvres sont la majorité. Et il est évidemment très simple de se plaindre quand on sait qu'on est la majorité. Deuxièmement, hein, et ça c'est très important, les pauvres ne font rien pour changer les choses. Parce que si vraiment ils voulaient changer les choses, si vraiment ils avaient envie de révolutionner le monde, eh bien par exemple, ils se présenteraient aux élections. Sauf que non, ils continuent à vivre dans des bidonvilles ou à faire la manche dans la rue, alors qu'ils savent très bien que le confort n'est pas au rendez-vous. Donc c'est que quelque part, ils se complaisent dans leur situation. Hein.
Très bien. Nous parlons aux pauvres depuis tout à l'heure maintenant, et j'ai peur, enfin je suis un peu perdu, c'est peut-être le cas de ceux qui nous écoutent aussi. Il me semble que vous mettez un point d'honneur dans votre livre à différencier les différentes classes de pauvres, à ne pas faire
de... C'est très très important de ne pas faire d'amalgame. C'est pour ça que, bien sûr, dans notre livre, nous avons dressé un tableau de classement des différents types de pauvres, car il faut faire attention, tous les pauvres ne sont pas les mêmes. Si je dois donner quelques exemples, par exemple, on a les Roms, les sans-abri, les chômeurs, les noirs, les smicards, enfin je veux dire tous ces types de populations qui sucent le sang de la France, qui sont un peu comme des tiques.
Et alors, si cela ne tenait qu'à vous, si vous en aviez le pouvoir, quelle solution proposeriez-vous aux Français qui nous écoutent ?
Alors on essaye d'imaginer une société idéale, une espèce d'utopie vers laquelle tendre dans notre livre. Et il y a des solutions vraiment très simples, qui seraient très simples à mettre en place. Prenons un exemple en ce qui concerne le manque d'argent dans les caisses de l'État. Il suffirait tout simplement de taxer les pauvres, car ils sont plus nombreux. Ça relève du bon sens.
Et il faut arrêter d'aider les pauvres, enfin les aider. Donner de l'argent aux pauvres, ce n'est pas les aider. Parce que du coup, on leur donne de l'argent, et du coup, ils sont contents, et ils ne font rien pour changer la situation. Mais ne rien leur donner, et laisser se débrouiller par eux-mêmes, ça, ce serait une véritable avancée. C'est comme un exemple tout bête, par exemple les enfants. Si on leur donne tout, l'éducation ne se fait pas. Hein. Au Moyen-Âge, tout se passait bien, et depuis les allocs, c'est la misère. Donc expliquez-moi.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pauvreté doit disparaître. Parce qu'elle freine la consommation et donc le développement. Aujourd'hui, de nos jours, il faut miser sur les riches. Ce sont eux l'avenir de la société. Donc, soit les pauvres font un effort pour devenir riches, en trouvant un travail, en jouant au loto par exemple, soit, pour éradiquer la misère, nous serons obligés d'employer la seule solution viable qui est de se débarrasser des pauvres.
Ah, tout à fait, plus de pauvres, plus de pauvreté, c'est simple, et les pauvres doivent retourner dans leur pays. Ne craignez-vous pas que cette solution d'éradication, puisque c'est de ça qu'on parle quand même, puisse paraître un peu extrême aux oreilles de certains?
Non mais écoutez, je vais arrêter de mâcher mes mots, hein, parce qu'au bout d'un moment, il faut dire ce qu'on pense. Les Français en ont plein le cul des pauvres, hein, il ne faut rien pour changer la situation, et ils n'arrêtent pas de se plaindre. D'un moment, c'est l'hypocrisie, hein, s'il vous plaît. L'hypocrisie, d'ailleurs, est un défaut inhérent à la pauvreté. Moi, je ne vais pas chez eux jouer de l'accordéon dans leur case ou leur maison en terre. Hein. Quand ils viennent dans mon métro, je vois ça comme une agression et je pense que tout le monde ici est d'accord avec ce que je dis.
Je rejoins tout à fait mon collègue Bertrand sur ce point. Le problème, c'est que quand on exprime ses opinions, quand on a ce genre de discours, quand on dit ce que la France entière pense, finalement, on se fait traiter de fasciste. On vit dans une société bien pensante et démagogique qui censure la parole des dominants. On ne peut plus rien dire.
Et c'est le but de notre émission, redonner la parole à ceux qui n'ont plus assez. Christine Marie, Bertrand Jacques, je vous remercie pour cette formidable émission. J'ai passé un excellent moment, j'espère que c'est votre cas à vous aussi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Paroles Libérées. Nous serons à la même horaire, même chaîne, comme d'habitude. Bonne soirée et à la semaine prochaine.
Et voilà, c'était un extrait d'une pièce des étudiants en art du spectacle de Lyon 2. Ils donneront une nouvelle représentation d'une nouvelle pièce fin février, à peu près dans le même style. Le lieu et le jour exact ne sont pas encore connus, mais je vous communiquerai ça très vite, car moi je trouve que ce qu'ils font c'est vraiment génial. Et pour en revenir à mon reportage et à notre Canu Info, je trouve important que l'on parle des gens sans logement, surtout en ce moment, car nous sommes en hiver, il fait froid dehors, et pourtant il n'y a toujours pas assez de places dans les centres d'hébergement d'urgence et les foyers d'accueil. Ils sont encore beaucoup à dormir dehors en ce moment, sous des températures très basses. Selon la fondation l'Abbé Pierre, 140 000 personnes environ sont aujourd'hui en 2014 et en 2015 sans domicile en France, un chiffre qui a augmenté de 50% en 10 ans, et tous ne peuvent pas être logés, puisque en 2012 il n'y avait que 80 000 places en hébergement d'urgence, et on se doute que ce chiffre n'a pas beaucoup bougé en 3 ans. Cela signifie que quand elles appellent le 115 ou même se présentent directement devant un hébergement d'urgence, les personnes sans domicile ne vont pas forcément avoir le droit à un lit ou même de dormir dans un endroit clos. Et c'est pour ça que, pour finir ce reportage et clore ce Canu Info, on va écouter l'interview de Kevin. Kevin qui est moniteur au sein du foyer d'accueil Paul Bert de Tours, donc un centre d'hébergement d'urgence. Il va justement nous parler de la situation et du quotidien des résidents de ce foyer.
On accueille, on a une capacité d'hébergement de 25 personnes. On accueille des hommes, donc simplement des hommes. Hein. Après, il y a des structures féminines. Donc, capacité d'hébergement, donc 25. Et puis des hommes en difficulté sociale, hein, comme on dit, avec des problématiques différentes. Ça peut passer, d'une personne lambda, entre guillemets, comme nous, c'est-à-dire qu'il du jour au lendemain, par concours de circonstances, il nous arrive des galères et puis on tombe dans le système donc de la rue. Et donc à partir de là, généralement ces personnes-là se relèvent plus ou moins vite, hein, parce qu'ils utilisent la structure et les moyens sociaux comme moyen de rebondir en fait. Après maintenant, il y a des personnes qui sont un petit peu plus marginales. Dans le sens où Ils ont vécu dans la rue depuis très longtemps et sont complètement décalés par rapport au système, ou n'ont pas forcément envie d'intégrer le système parce que ça leur convient pas. Hein. Donc après, il y a des points de vue qui sont respectables. Hein, parce que moi, comme je dis, le marginal, son point de vue est respectable dans le sens où il n'adhère pas au système, donc il ne demande aucune aide, il ne demande rien. Après, maintenant, ces gens-là ne vont pas dans les structures d'hébergement, donc il y a des maraudes donc, qui sont effectuées, c'est-à-dire les travailleurs sociaux qui passent avec des camions ou des minibus, justement pour donner de la soupe, du café, un repas chaud pour en venir à la structure. Voilà, donc, homme seul. Et donc après, une fois qu'ils sont ici, donc pour une situation pérenne, donc jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose de plus stable. Normalement, ça fonctionne sous contrat d'hébergement qui vont de 6 mois à 12 mois donc pour les droits communs, donc les Français. Et pour les demandeurs d'asile qui vont de 3 mois à 6 mois.
D'accord, il y a aussi les demandeurs d'asile ici par exemple ?
Ouais, on a aussi les demandeurs d'asile, donc ça fait c'est encore une autre problématique après les demandeurs d'asile, hein. C'est encore d'autres on les arrive avec d'autres complications, hein, sans bien sûr dénigrer les complications que les droits communs puissent avoir, mais c'est des problématiques complètement différentes.
Du coup, ça marche toute l'année ou...
Ah non, on fonctionne toute l'année. On fonctionne toute l'année.
Et en général, c'est tous les foyers sont que on a toute l'année ou il y en a que c'est que en hiver, en période.
Alors, en général, c'est tous les foyers qui fonctionnent toute l'année. À part à une certaine époque, ils avaient mis en place un troisième foyer d'hébergement, donc qui s'appelait le Chute, qui était ponctuel, hein, qui était là justement simplement en période hivernale. Donc pour justement augmenter un petit peu les capacités d'hébergement et qu'il y ait beaucoup moins de personnes qui se retrouvent dans la rue. Mais après, par faute de budget, la structure est fermée à l'heure actuelle. Quoi.
Est-ce qu'il y a assez de place pour toutes les personnes qui ont besoin d'hébergement d'urgence ? Aujourd'hui,
non, pour être honnête,
à Tours ou même en France en général.
Pour être honnête, non, il n'y a pas assez de place pour toutes les personnes qui ont besoin d'hébergement en urgence, que ce soit à Tours, que ce soit dans toute la France. Après, je pense que les problématiques sont les mêmes. Après, les budgets vont être différents en fonction des mairies, donc ils auront peut-être plus de moyens ou les structures seront plus grandes. Mais ça n'empêche que non, il n'y a pas assez d'hébergement justement pour tout le monde. Donc après, malheureusement, y a des personnes qui se retrouvent à la rue, même dans des périodes comme on se retrouve actuellement, quoi. Donc avec des températures très basses, ouais, y a encore des gens qui dorment dans la rue. Et, donc que ce soit des hommes seuls, que ce soit des familles, que ce soit femmes avec enfants. Donc voilà.
Et du coup, vous rejetez du monde là en hiver, ça vous arrive de devoir dire non ?
Ouais, ça nous arrive de dire non, que ce soit en hiver ou en été, on dit non constamment.
Ouais, sauf que là, c'est encore plus dur, quoi.
En hiver, c'est dur de dire non, hein, de refuser quelqu'un quand tu sais qu'il fait froid dehors. Quand on passe 10 minutes, un quart d'heure dehors, enfin parce qu'on a 2-3 trucs à faire, c'est pas terrible. Alors maintenant, savoir que tu vas passer la nuit dehors, c'est dur. Donc après, pour nous, on a avec le temps on prend du recul par rapport aux choses, mais c'est vrai que ça reste frustrant, quand il caille, de dire à une personne non, on t'héberge pas, quoi. Après, on n'a pas le choix parce que c'est comme ça, on peut pas sauver le monde, hein. Mais ça, c'est pas agréable.
Et la solution serait d'en faire plus, ce serait
faire plus de structures,
ouais.
Pas forcément, parce qu'après, faire plus, enfin, ça c'est mon point de vue, mais faire plus de structures, pas forcément parce que ça enfermerait les gens dans un système. Parce que bon, après, je répète, ça dépend des villes et des budgets, mais par exemple, quand on regarde ici, la structure elle est assez propre. ils ont pas mal de choses, pas mal de confort, et si ils sont quand même censés être là pour rebondir par la suite. Donc si on rajoute des structures et que en fonction des moyens, les structures sont, je dis pas qu'il faut que ce soit inconfortable, hein, non, parce que ça reste des êtres humains, donc faut tout le monde a le droit d'être dans des lieux décents, mais trop de confort, après je pense pas que ce soit une bonne solution pour que les gens puissent se réintégrer. Après, confort ou pas, il y en a qui n'ont pas du tout envie de se retrouver dans les structures parce qu'ils ont besoin de leur autonomie, de leur indépendance. Parce que quand tu es dans un foyer d'hébergement, tu es quand même soumis au règlement de la structure.
Ouais, comme quoi, par exemple?
Bah, comme quoi, c'est-à-dire bah, déjà rentrer à partir de telle heure. Comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils arrivent au foyer à partir de 18h. S'ils veulent manger, le repas est à 19h, donc il faut qu'ils arrivent dans cet intervalle-là. Sinon, ils ont jusqu'à 22h pour arriver, mais les contraintes, c'est que ça reste des humains, ils ont des envies, c'est-à-dire que de temps en temps, ils aimeraient bien sortir un petit peu plus longtemps. Quand il y a des animations à l'extérieur, quelconque, hein, concert ou autre, machin, bah, ils ont l'obligation de rentrer à 22h. S'il y en a un, par exemple, tout bête, il va rencontrer une nana, bah, il faut qu'il rentre avant 22h, donc c'est des contraintes. Ça, c'est des adultes, hein, quand même, donc ça va un temps, mais à un moment donné, ouais, c'est contraignant.
Et du coup, est-ce que pour Noël, vous avez, parce que Noël, ce serait un jour comme les autres, mais il n'y avait rien fait du tout pour eux, est-ce que vous essayez, je sais pas, de faire un truc un peu différent, que ce soit au niveau des repas, pas forcément que vous, mais aussi la ville, au niveau des repas qui sont fournis, au niveau de la décoration, des trucs comme ça, tout bête.
Bah alors moi, je vais parler pour notre structure, parce qu'après, je sais pas comment les autres structures fonctionnent. Voilà, mais c'est ça. Donc pour notre structure, oui, chaque année, c'est la période des Noëls est entre guillemets différente, c'est-à-dire que pour le 24, donc le réveillon, et puis pour le 25, c'est des repas spéciaux, quoi. C'est pas les mêmes repas que d'habitude, c'est pas les repas classiques où on va te mettre simplement des haricots verts ou machin. Non, c'est des bons repas. Ils peuvent avoir je sais pas de menu en tête, mais c'est vrai que non, c'est vraiment des bons repas bien consistants. Et puis après, par exemple ici, ils ont pas le droit de boire. Hein, pour rentrer dans la structure, on prend pas quand ils sont alcoolisés, parce que sinon après ça fout le bordel un petit peu partout. Mais par contre, dans la période des fêtes, voilà, nous, en dehors de la nourriture qui change, de l'alimentation qui change, bon bah voilà, ils ont la possibilité de boire, puisqu'on a des bouteilles de vin, on a des bouteilles de pétillant pour prendre l'apéritif. Donc
c'est cool à Noël, ça, il y a aussi un petit.
Ouais, c'est une physionomie complètement différente. Et puis, sachant qu'ils sont censés en temps normal arriver, comme je disais, à 18h et puis sortir du foyer dans le matin à 8h pour la période de Noël, ben, on est ouvert toute la journée. Ce qui fait qu'ils peuvent faire la grasse mat. Donc ils se lèvent à l'heure qu'ils veulent. Et puis là où en temps normal, la machine à café est ouverte simplement à partir de 7h le matin pour le petit déjeuner, de 7h à 7h30. Bah là, période de Noël et premier de l'an, bah voilà, comme ils sont là toute la journée, la machine n'est pas coupée. Ce qui fait que celui qui se lève à 8h, il prend son café comme il veut. Celui qui se lève à 13h, il prend son café comme il veut. Ils peuvent rentrer et sortir toute la journée, faire des allers-retours, ça pose aucun souci, quoi. Et ce, jusqu'à 1h du matin. Alors que d'habitude, c'est 22h. Ouais, ouais. Donc du coup, là, c'est une période où on leur laisse plus de liberté.
Ouais.
On leur laisse plus de liberté.
Je pense que c'est important de faire ça pour...
Ouais, c'est important parce que Noël, c'est quand même l'esprit de Noël. Après, c'est propre à chacun, mais ça reste quand même festif. Et pour ceux qui n'ont pas forcément de famille, avoir justement ce petit clin d'œil, c'est rafraîchissant. Mmh. Ouais, c'est rafraîchissant. Sachant que ils ont des cadeaux aussi.
Ah,
oui, ils ont des cadeaux aussi chaque année. Ils ont des cadeaux. Donc après, généralement, les cadeaux qu'on leur donne, c'est des des coffrets en fait, donc un coffret donc parfum avec tout ce qui est voilà des petits coffrets sympas, gel douche, machin, etc. Déo, enfin voilà. Chacun a son coffret, donc on a l'arbre de Noël qu'on monte chaque année avec les décorations, et puis après il y a la distribution des cadeaux le 25 comme pour tout le monde.
Et voilà, c'était le reportage au foyer Paul Bert à Tours. Et voilà, c'était pour clore ce Canu Info. Donc voilà, j'étais enchanté de faire ce premier Canu Info avec vous. Et on se retrouve dans deux semaines, voilà, pareil pour un nouveau Canu Info. Et je vous laisse avec
Noise Pollution
tout de suite. Voilà, bonne soirée.
On a été le premier groupe à être banni d'Angleterre.